Alain de Moyencourt, je vous ai vu arriver avec un drôle de vélo. C'était pas un Vélib, c'est un vélo que, une fois plié, je crois, il fait un peu moins de 1 mètre carré, non ?
Ah, il fait moins du mètre carré, oui, oui, c'est juste un truc pour prendre dans le train.
C'est vous qui l'avez conçu ?
Non, pas du tout, pas du tout. C'est anglais, c'est un truc pour les yachtmen. J'ai pas le bateau, j'habite à Paris, mais j'ai quand même le vélo.
Et vous êtes un peu baladé dans Marseille alors avec ça ?
Je me suis un peu baladé dans Marseille, oui, oui, absolument.
Vous connaissiez la ville ou...
Je connaissais la ville quand j'étais tout petit. Enfin, tout petit, non, je devais avoir 10-12 ans. Donc, ça a pas mal changé, j'ai l'impression. Ça a changé. J'ai vu moins de magasins de poissons que dans le temps, mais bon.
Vous savez qu'ici, c'était pas un magasin, c'était carrément...
C'était la criée, oui, bien sûr, la criée. C'est là où on vendait le poisson.
Vous êtes déjà venu dans ce théâtre ?
Non, ce théâtre, pas du tout. Pas du tout, du tout. C'est la première fois.
Alors, comment s'est fait votre invitation pour participer à cette soirée d'ouverture des cabarets criés ?
Alors ça, c'est une bonne question auquel je saurais trop répondre. Si, je crois que c'est en fait par le théâtre d'Aubervilliers qui a dû me vendre peut-être ici. Enfin, je sais pas. Me vendre, je sais pas, non, puisqu'en fait, je suis invendable.
Vous louez.
Me louer, on va dire, voilà. Mais oui, je pense que c'est par ce biais-là. Je pense que c'est par ce biais-là.
Donc, tout à l'heure, vous me disiez que vous étiez spécialiste de tout et de rien. Dans le détail, ça donne skateboarder, photographe, physionomiste, laborantin, projectionniste, magicien, modèle poursuiteur, illusionniste, manipulateur, penseur, close-up man, professeur de bêtises, monsieur loyal, constructeur, accessoiriste, inventeur, cascadeur, acteur, figurant, concepteur d'effets spéciaux, modèle, collectionneur. Donc je viens de lire le petit dépliant qui présente un peu vos activités, qui sont nombreuses dans le tout et dans le rien. On s'aperçoit que vous allez aussi bien dans les cirques que dans les films, que sur les scènes de théâtre, que vous donnez des cours de magie. Vous êtes là ce soir au cabaret crié pour de la magie, faire pendant une bonne vingtaine de minutes des tours de magie. Ça va être difficile de les retransmettre à la radio d'ailleurs, mais pour parler un peu de vous, alors je précise juste quelque chose qui peut frapper l'imagination, c'est que vous avez été acteur dans La science des rêves de Michel Gondry. Je pense que c'est un film que pas mal d'auditeurs de La Grenouille ont pu voir. Mais je crois que votre première activité a été le skateboard et que vous avez été un des premiers en France à utiliser cette planche à roulettes.
On va pouvoir dire ça comme ça, oui. Je pense un des premiers, en tout cas en France, peut-être bien, oui. J'en sais rien.
C'était en quelle
année ? J'avais 5 ans, donc j'ai 55 ans, ça fait 50 ans.
Ah oui.
Voilà. La première planche. Après, j'ai dessiné une des premières planches qui a fait que ça a été la mode, on va dire. J'ai dessiné la Banzai, qui est une des premières planches. Bon, ça a été un petit peu créé le phénomène de mode avec un monsieur qui s'appelle Jean-Pierre Marquand, qui n'a pas été très gentil ni très honnête, donc du coup je me suis tourné vers un autre monsieur qui a importé les planches américaines. Alors on va dire un petit peu oui que je suis à la base de ça, mais je n'ai malheureusement pas fait comme les autres, c'est-à-dire j'ai pas fait plein de pognon. J'ai simplement plaisir à regarder quand je vois un môme sur une planche, à me dire bah voilà, j'ai peut-être participé à ce sourire, parce qu'en fait les gens qui glissent quelque part, ils ont un sourire que n'ont pas les autres. Alors je sais pas, les autres ils ont sûrement un autre sourire, mais... Voilà.
Comment vous avez fait pour vous retrouver avec une planche de skateboard il y a 50 ans ? C'était à Marseille donc ou...
Non, moi je suis parisien. Hein. Oui. Moi je suis parisien. Alors comment j'ai fait ? C'est tout simplement un truc idiot. Il y avait ce qu'on appelait à Paris l'église américaine. En fait, Charles de Gaulle mettait tous les Américains à la porte en fait de la France. Enfin, les renvoyait dans leur pays. Et donc, en fait, toutes ces familles redonnaient tout ça à l'église américaine à Paris, en fait, donnaient tous leurs vêtements, donnaient tous leurs jouets, leurs jeux et tout ça. Et en fait, mes parents n'étaient pas spécialement riches du tout. Et donc, allaient acheter, en fait, tous nos vêtements. On était totalement habillés par l'église américaine, en fait. Et pour ainsi dire, nourris aussi. Il y avait aussi de la nourriture. Enfin, bref, donc, ils avaient ramené un jour une planche à roulettes. J'appelle ça encore une planche à roulettes, mais enfin, c'est un skateboard.
Qui ressemblait à quoi à l'époque ?
Oh bah que t'as une planche en bois avec des roues en fer, un truc tout bête, rien d'extraordinaire. Hein,
des roues qui permettaient de...
Qui permettaient de tourner quand même, bien sûr, oui. Hein. Mais en fait, on est fabricant de planches à roulettes depuis très longtemps en France. Hein. C'était pas du tout... Je suis très mauvais avec les dates, mais moi je sais que tous mes anniversaires, mes Noël, enfin tout, j'avais une planche par an pour tous mes cadeaux. Tout cadeau confondu, on va dire. Je voulais mon skateboard et c'était une kamikaze qui était la planche de l'époque, la bonne planche. Maintenant, moi, quand j'allais chez Midon, qui était un gros fabricant de planches à roulettes aussi, que j'utilisais pas sa planche, mais j'achetais le stock de roues à moi tout seul, parce que les roues duraient à peu près le temps d'un spectacle. Donc, il me pensait que j'étais un grossiste revendeur de skateboard et j'achetais le stock de roues, alors j'étais juste un petit utilisateur. Maintenant, non, le skateboard, c'est... On est fabricant depuis très très longtemps en France. Dans les magasins de jouets, il y en avait quand j'étais petit, les gens ne savaient pas ce que c'était. ils savaient pas ce que c'était. Alors c'est vrai que ça fait peut-être, quand j'avais 12 ans, 12, 13 ans, c'était dans les magasins de jouets. Hein, mais les vendeurs ne savaient pas ce que c'était ni à quoi ça servait. Donc ils s'en servaient beaucoup pour transporter, en fait, pour transporter leurs caisses. Voilà. Mais ils étaient incapables de vendre l'objet. Quoi.
Vous disiez que vous faisiez un spectacle avec les skateboards
Moi, je faisais le skateboard à Saint-Germain-des-Prés entre les voitures. Ouais. Moi, c'est comme ça que je suis venu au spectacle, en fait. Je gagnais ma vie avec ça.
C'est-à-dire, ça consistait en quoi?
Ça consistait en quoi? Ça consistait à Saint-Germain-des-Prés, entre les voitures, à faire le skateboard entre les voitures qui roulaient à fond les ballons, et j'arrivais face aux voitures et sans se faire tuer, je faisais des slaloms effrénés et cinglés entre les voitures, je me faisais tirer par les voitures, je faisais peur au public parce que j'y pensais à chaque fois que j'allais me faire écraser, quoi, voilà.
Ouais. Et il n'y a personne qui venait vous arrêter
J'ai eu pas mal d'ennuis avec la police, bien sûr. Je me suis fait tabasser 2-3 fois, procès, enfin, pas mal de choses, en effet, qui ont fait que j'ai dû arrêter.
Bah, parce que vous étiez un peu en danger public, quoi.
J'étais en danger public, non, parce que j'ai jamais créé d'accident, donc je pense pas que j'étais un danger public. Maintenant, ça en donnait le signe, mais c'était ce danger qui faisait que je prenais de la monnaie dans mon chapeau, puis c'était surtout une grande paire de rigolades, les gens étaient morts de rire, en fait, parce que j'allais 3 fois plus vite que les voitures, voilà, j'étais déguisé en... À l'époque, Saint-Germain-des-Prés, c'était un peu, on va dire, gay, tout simplement.
Mais l'époque, c'était à quelle époque vous faisiez ça?
Oh, je faisais ça en quelle époque? Avant le service militaire, alors je devais avoir quoi, en 60, je sais pas moi...
Les années 70, quoi.
Ouais, dans les années 70, on va dire, oui, voilà.
Et ça faisait beaucoup d'argent?
Je faisais pas mal de sous, ouais. C'est des choses qu'il faut pas dire, mais je faisais pas mal de sous. J'étais un des rares qui faisait pas mal de sous. Alors après, ça a été un peu ce qu'on appelait les artistes de rue. Moi, j'étais un peu dans les premiers. Il y avait Philippe Petit, en fait. Il y avait moi au début, tout début.
Philippe Petit, c'est quelqu'un qui faisait du skate aussi?
Philippe Petit, pas du tout. C'est un des plus grands fil-de-feristes mondial. C'est lui qui a fait les tours... Enfin, les deux tours qui n'existent plus aux États-Unis, qui a fait les tours de Notre-Dame, qui est un des plus grands fil-de-feristes... au monde, on va dire, oui. Mmh. Et qui faisait la manche à Saint-Germain-des-Prés, entre les voitures, pas entre les voitures, ça c'était moi. Lui, il faisait ça entre les arbres, il tendait un fil entre les arbres, il faisait du monocycle. Et c'était un des premiers jongleurs à se servir, enfin c'était un mec magnifique, magicien, jongleur, grand monsieur de la rue. Voilà.
Et qu'est-ce qui vous a amené alors à passer du skateboard à la magie?
Qu'est-ce qui m'a amené à passer du skateboard à la magie? C'est assez simple. En fait, d'abord j'étais photographe en premier, en fait, j'étais laborantin. Et on m'avait piqué mon vélo de course, et donc je suis revenu au skateboard. Le skateboard, un soir, j'étais complètement sous, je faisais du skateboard dans la rue, voilà. Et ça a fait un spectacle, les gens m'ont mis tellement de sous, j'avais rien demandé, m'ont mis tellement de sous dans le vêtement que j'avais laissé par terre. Je me suis dit, tiens, ça c'est une bonne idée. Et puis en fait, je me suis retrouvé à l'armée, au service militaire, obligatoire à l'époque, évidemment. Et là, le skateboard, c'était pas évident, donc j'ai appris la magie là-bas, par désespoir, allez, disons le grand mot. C'est-à-dire que je pensais qu'il allait tout faire péter, qu'il allait rester un gros caillou tout rond et qu'il fallait se manger entre nous. Et qu'il n'y avait qu'un truc qu'il ne pouvait pas supprimer, c'était le rire. Donc le rire, je me suis dit, voilà, ça c'est une belle monnaie d'échange, donc il faut que je fasse des choses avec 3 cailloux. Et donc j'ai essayé de faire quelque chose avec 3 cailloux et en fait je suis devenu magicien, voilà. Alors c'est une drôle d'histoire, hein, c'est pas très gay. Pas très gay, mais bon, elle est ce qu'elle est, voilà. Alors c'est pas spécialement une passion, c'est une roue de secours. Mais bon, c'est une bonne roue de secours, hein, ça m'amuse bien. Voilà.
D'accord. Et vous faites ça alors dans des endroits divers et variés, et notamment vous avez fait ça avec les Dromesco.
Avec les Dromesco, que je fais ça avec la baraque Dromesco, oui, ça j'étais un des... Oui.
Vous faisiez quoi comme tour dans cette baraque?
Dans la baraque, je suis un personnage, je suis un curé en fait, je suis un magicien curé, enfin je suis un curé, voilà, et je fais la magie au cours du spectacle, avant, après, pendant, un petit peu tout le temps, voilà.
Donc la magie, ça vous a amené aussi à faire ces conceptions d'effets spéciaux pour le cinéma?
On peut dire ça comme ça, oui. Un peu la construction, les effets spéciaux pour le cinéma pendant une quinzaine d'années, oui. Quand même, oui.
Et comment vous l'avez appris la magie? Alors comment vous avez acheté des tours au fur et à mesure?
Pas du tout, du tout, du tout. La magie, j'ai appris dans un livre qui s'appelle Cours Magica de Rémi Bricard, qui est un bon petit vieux livre de magie formidable. Et j'ai appris ça donc au service militaire, parce qu'en fait là-bas, pour devenir magicien, en fait, ce qu'on a besoin, c'est de spectateurs. Hein. C'est la seule chose qu'on ait besoin. Et ben à l'armée, bizarrement, il y a plein de spectateurs, il y a plein de mecs qui s'emmerdent à 100 sous de l'heure. Donc en fait, ben, un magicien, c'est génial parce que ça, voilà, ça permet d'avoir des spectateurs. Donc j'ai un peu ma magie à moi, on m'appelle un peu Géo Trouve-Tout entre les professionnels de la magie.
Vous inventez des tours?
Voilà, je suis un peu un inventeur, on va dire. Voilà,
Par exemple, quelques tours célèbres que vous avez inventés qui seraient...
Des tours célèbres, j'ai pas de tours célèbres. Hein. j'ai pas de tours célèbres dans le sens
des
où je suis pas quelqu'un
alors,
de célèbre.
Que des gens auraient acheté parce qu'ils ont été emballés d'autres magiciens. Parce que
tous les magiciens ont acheté mes tours. La plupart de mes tours ont été vendus, mais de tours célèbres, je sais pas moi. C'est l'épingle à nourrice en feu, c'est le briquet transpercé, c'est je sais pas... Il y en a tellement que j'ai oublié moi-même, donc j'en sais trop rien. Maintenant, je suis un vendeur à la sauvette, donc faut pas le dire. Donc je suis pas obligatoirement dans tous les magasins de magie du tout, parce que c'est pas rentable, en fait. Et aujourd'hui, j'arrête parce qu'en fait, finalement, que dire, je donne ma magie aux autres, et puis finalement, je m'en sers plus moi-même, donc c'est un peu idiot.
Comment ça, vous arrêtez? Vous êtes là ce soir pour faire des tours?
Non, enfin, j'arrête de vendre mes tours, j'arrête de vendre mes tours, plus ou moins, on va dire, plus ou moins. Ou aux personnes un peu éclairées, on va dire, j'en sais rien. Je dis des bêtises, mais faut pas m'en vouloir.
Il y a beaucoup de gens qui ont suivi un peu votre part. Il y a beaucoup de magiciens en France.
Il y a beaucoup de magiciens, bien sûr. C'est une activité énorme, bien sûr, qui fait plein de profits. Il y a plein d'associations, de clubs, de boutiques de magie. Je pense qu'il doit y en avoir au moins deux sur Marseille, ou si c'est pas trois. Plus des boutiques de jonglage qui vendent de la magie. Pour devenir magicien, maintenant, il y a les DVD. Avant, il y avait les cassettes. Moi, quand j'étais petit, il y avait des livres. Incompréhensible, absolument incompréhensible. Alors voilà, alors aujourd'hui il y a beaucoup de magiciens, bien sûr, parce qu'il suffit de faire un tour de magie pour être un magicien. Donc il y en a beaucoup qui... Oui, il y a beaucoup de magiciens. Il y a beaucoup de mauvais magiciens d'ailleurs, mais ça faut pas le dire.
Il y a toujours beaucoup d'inventions en magie.
Il y a toujours énormément d'inventions, ça c'est un art magnifique parce que ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas de créer sans arrêter. Hein. C'est-à-dire que tous les jours, ici en France, là, il y a au moins 3-4 tours nouveaux par jour qui se créent dans l'esprit de certains magiciens. Ce qui est amusant d'ailleurs, c'est qu'à l'autre bout du monde, il va y avoir le même tour qui va être créé. Un jeu de cartes, c'est une source invraisemblable de tours de cartes. Hein. Moi, je n'ai pas inventé beaucoup de tours de cartes, je ne fais pas de tours de cartes, très peu. J'en ai inventé un d'ailleurs pour faire uniquement parce que quand vous faites un tour de cartes, en fait, vous tendez le jeu à une personne et vous lui dites « choisissez une carte ». Et là, la plupart des gens vous disent « ah, je connais ». Ce qui est formidable parce que moi, je ne sais absolument pas ce que je vais faire comme tour. Mais la personne connaît déjà. Il y a à peu près, je ne sais pas, 2 milliards de tours de cartes dans le monde. Et moi, je ne sais pas quel tour de carte je vais faire. Donc, je m'étais dit « il faut que j'invente un tour de carte pour cette personne-là ». Donc, j'ai fait un tour de carte pour cette personne-là qui est complètement stupide. Parce que cette personne choisit une carte, elle connaît, je dis « ça tombe bien, j'ai besoin de quelqu'un qui connaît ». Tenez, regardez, vous posez votre carte, vous la mettez dessus le paquet, regardez bien, elle redescend, et là, je prends la carte du dessous et je dis « regardez bien, c'est votre carte ». Et là, en fait, j'ai électrocuté la personne. C'est-à-dire, j'avais monté une petite gégène sur la carte et j'ai électrocuté la personne. tour complètement stupide. C'est absolument pas un tour, mais c'est un tour que moi, j'adore. Voilà.
C'est une sale blague, quoi.
C'est une sale blague. Ouais, on est des sales blagueurs.
Pour vous, qu'est-ce qui fait un bon magicien?
Qu'est-ce qui fait un bon magicien? D'abord, un bon magicien, c'est un personnage. Le magicien, c'est un peu comme le vélo. C'est-à-dire, vous dites, apprendre à faire du vélo, tout le monde sait faire du vélo. La magie, c'est pareil, hein. Ça s'apprend, c'est comme les mathématiques, c'est comme le bilboquet, on va dire. Donc après, il y a des gens plus ou moins aptes à le présenter. Hein. Alors quand je dis il y a des mauvais magiciens, je ne sais pas que c'est des mauvais magiciens, c'est des gens qui cassent le métier. C'est-à-dire qu'ils cassent le métier puisqu'ils vont apprendre sur une vidéo, un tour, ils ne vont pas y remettre leur grain de sel à eux. Voilà ce qui manque. En fait, ce qui manque, c'est un peu le sel. Chaque humain est différent et finalement, on se retrouve avec des magiciens qui font tous la même chose. Donc voilà, c'est ça qui me désespère un petit peu. Et c'est vrai qu'on les emploie de moins en moins finalement les magiciens parce que ils se retrouvent tous à faire la même chose, dans le même style, avec le même baratin. Donc le type qui achète ça, il en a un petit peu marre aussi, quoi, voilà. Enfin bon, on va pas casser du sucre sur un métier que j'aime bien, mais c'est vrai qu'il y a quelque part, on a perdu un petit peu. Enfin en même temps c'est assez amusant parce que c'est finalement ces grands magiciens qui ont fait des tas de vidéos, des tas de machins, des tas de trucs, qui se plaignent aujourd'hui d'être moins bien payés, d'avoir moins de boulot, et en même temps ils ont divulgué leur art, donc voilà, ils ont pris le coup de pied dans le dernier qu'ils se sont eux-mêmes donné. Je sais pas comment on se fait pour se mettre des coups de pied au cul, mais eux se le sont donné grandement, voilà. Un côté comme ça, à vrai dire.
Bah, pour terminer, quels sont les tours là, de magie que vous allez faire ce soir sur cette scène de la criée?
J'en ai encore aucune idée, aucune idée en gros. Je ne sais jamais très bien ce que je vais faire, je ne sais jamais très bien comment je vais être. C'est-à-dire, je ne sais pas, là j'ai pas bien digéré à midi, donc je ne sais pas, j'ai aucune idée, on verra bien. On verra bien, on va pas s'emmerder plus que ça.
Bon, bah, en tout cas, bah, écoutez, bon tour. Alors, je sais pas comment on souhaite bonne chance aux magiciens.
On dit merde comme à tout le monde, comme tous les artistes, on leur dit merde, et puis voilà.
Merci Alain de Moyencourt.
Vous en priez, plaisir.